Bonjour à tous, aujourd'hui l'heure de vérité pour les prothèses mammaires. Trois mois après notre grande enquête, les Implant Files, l'ANSM, l'agence de sécurité du médicament, a organisé des auditions publiques cette semaine, tandis que des victimes de cancer, elles, ont saisi la justice. On va en parler avec vous, Élodie Guéguin, bonjour.
Bonjour Jacques.
Comme chaque mois, nous recevrons ensuite la médiatrice de Radio France, bonjour Emmanuel Davier.
Bonjour Jacques Monin.
Et puis Mathieu Delahousse nous parlera, lui, de son dernier livre, La Chambre des Coupables, bonjour également.
Bonjour.
Alors vous avez assisté au procès de nombreux apprentis djihadistes, des jeunes qui évoquent, on va le voir souvent, des monstruosités, avec un détachement qui laisse parfois sans voix.
France Inter, secret d'info. Jacques Monin.
On m'a jamais dit, j'ai eu aucun papier me disant attention madame, il y a des risques de lymphome anaplastique à grande cellule. Maintenant je m'interroge et j'aimerais bien que tout cela serve à quelque chose pour nous tous. Je vous remercie.
Voilà ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait des auditions publiques qui se sont déroulées hier et avant-hier à Saint-Denis au sujet des implants mammaires, des auditions qui étaient organisées par l'Agence de sécurité du médicament. Il faut savoir que près de 500 000 femmes en France portent des implants, or l'ANSM se demande s'il ne faut pas en interdire certains, parce qu'il semble, et nous l'avions développé lors de la grande enquête qu'on a appelée les Implant Files, il semble que des modèles qu'on dit texturés ont parfois des conséquences graves, Élodie Guéguin.
Oui, ce sont ces implants à enveloppe rugueuse qui étaient, il y a quelques mois encore, les plus posés en France. Ils seraient à l'origine d'une forme de cancer, le lymphome anaplasique à grandes cellules, une maladie rare mais en constante augmentation. 59 femmes touchées en France, 1 à 2 cas en plus chaque mois et déjà plusieurs décès.
Ah, et vous avez justement rencontré l'une de ces femmes qui souffre de ce type de lymphome.
Oui, elle s'appelle Laetitia, elle a 42 ans. Avant son cancer, elle était maître d'hôtel dans le Vaucluse. Complexée par son absence de sein, elle s'est fait poser des prothèses de la marque Allergan. Il y a 3 ans, alors qu'elle se trouve sur son lieu de travail, une caisse lui tombe dessus, l'une de ses prothèses se rompt. C'est là, raconte-t-elle, que les problèmes commencent.
On m'a annoncé que ma prothèse était éclatée. J'ai eu de plus en plus mal, je ne dormais plus, à me prendre à coups de cachet. J'ai commencé par du doliprane pour finir avec de l'opium et de la morphine.
Et pendant tout ce temps-là, le silicone s'était répandu dans votre corps?
Ben forcément, il y en avait un peu partout. Hein. C'était descendu au niveau de la 4e et la 5e côte intercostale. Ça s'était collé forcément aux alentours des ganglions, axillaires, mammaires, plèvres pulmonaires. C'était un petit carnage. Ça a été long avant que quelqu'un daigne m'enlever la prothèse. Personne ne pouvait me prendre. Mais il faut les faire enlever, hein, il faut les faire enlever. Mais vous inquiétez pas madame, il y a beaucoup de femmes qui vivent avec des morceaux de silicone dans l'organisme. Ça ne porte pas préjudice à l'organisme, on peut vivre avec sans aucun problème. Malheureusement, ça n'a pas été le cas.
Ouais, ça n'a pas été le cas parce qu'en y regardant de plus près, Élodie, les médecins ont découvert autre chose.
Oui, ils diagnostiquent aussi quelque chose de bien plus grave, un lymphome à grande cellule, extrêmement agressif. Un lymphome qui, selon les médecins, aurait pour origine ses prothèses mammaires.
On vous dit bien clairement ce que c'est. C'est bien écrit. C'est un cancer de contact suite aux implants mammaires. Là, vous fulminez. On paye, parce que c'est quelque chose qu'on s'offre. Donc, on donne de l'argent à des spécialistes pour vous rendre plus belle, tout va bien se passer. Mais non, ça se passe pas bien. On vous met de la mort dans le corps. Vous payez pour qu'on vous mette de la mort dans le corps. J'ai été obligée de faire une demande d'adulte handicapé, parce que je ne peux plus faire mon travail. Je ne peux plus faire d'enfant. Avec tout le protocole que j'ai suivi, j'ai pris des produits de plus en plus forts qui m'ont rendu stérile. Je suis déjà ménopausée. Ça ruine des vies, ça ruine des santé, ça ruine beaucoup de choses.
Ouais, ça ruine des vies. Et c'est donc de ces vies ruinées qu'il a été question lors des auditions organisées cette semaine par l'ANSM. Auditions au cours desquelles on s'est rendu compte d'ailleurs qu'il n'y a pas que ce lymphome que des prothèses peuvent provoquer.
Non, beaucoup de femmes ont évoqué d'autres effets indésirables graves, des maladies auto-immunes comme le syndrome ASIA ou des épanchements de lymphe à répétition. C'est ce qui est arrivé à Audrey que nous avons rencontrée en Normandie. Elle a multiplié les problèmes de santé depuis son augmentation mammaire en 2017. Mais ce n'est qu'à la publication des Implant Files fin novembre qu'elle s'est intéressée au modèle d'implant qu'elle avait dans le corps.
J'ai décidé de prendre ma carte aussitôt pour voir quelle marque j'avais. Il y avait écrit effectivement Allergan, Biocell, Natrel, enfin toutes ces choses-là sur ma carte. J'ai senti les jambes s'écrouler. Sincèrement, j'étais chez moi, je me suis assise et je me suis dit, mon Dieu, c'est moi qui... Je fais partie des victimes éventuelles d'un lymphome avec Allergan.
Est-ce que vous avez demandé à votre chirurgien pourquoi il vous avait mis ce modèle-là ou cette marque-là?
Alors, effectivement, j'ai demandé à mon chirurgien. À l'époque, il m'avait dit que c'était mieux au niveau de la macro-texture puisque ça accrochait bien, qu'il n'y avait pas de problème de rotation avec ce genre de prothèse-là, pour que ça soit un meilleur rendu visuel et interne aussi dans moi.
Et il en pose toujours des allergans, votre chirurgien?
Non, à ce jour, 6 mois après ma pause, et après, il m'avait effectivement confirmé qu'il ne mettait plus du tout d'allergans 6 mois après mon opération de 2017.
Ouais, donc son chirurgien ne pose plus ce modèle de prothèse. Et elle, Élodie, depuis, elle en est où?
Eh bien, elle a demandé à son chirurgien de lui enlever ses prothèses au mois de décembre en urgence parce qu'elle n'en pouvait plus de souffrir.
Ça m'a causé des pathologies, épanchements, lymphe, fièvre, de sein doublé de volume. Enfin, je revois des images où j'ai vraiment un sein douloureux, où ils m'ont ponctionné à 3 reprises en montant sur mon sein à 2, en essayant de percer comme ils pouvaient les coques. Enfin, c'était vraiment très douloureux et c'est des épisodes après une opération, normalement pour esthétique, pour se sentir mieux dans sa vie. On ne souhaite pas avoir ce genre de conséquences et j'aurais su, sincèrement, j'aurais été plus avisée, informée. Je pense que je ne les aurais pas mises, les prothèses.
Ouais, si j'avais été plus informée. Et c'est aussi ça, d'ailleurs, que les femmes reprochent aujourd'hui à une partie du corps médical.
Oui, avant l'opération, on ne les informe pas forcément sur les risques de siliconome lorsque la prothèse se rompt et que le silicone se répand dans l'organisme. C'est ce qui est arrivé à Priscilla, une jeune mère de famille qui habite dans le sud-est de la France. Ses 2 prothèses se sont rompues alors qu'elle allaitait son bébé. Son chirurgien lui avait pourtant assuré que le gel de ses implants était cohésif, donc quasiment solide, et qu'il n'y avait aucun risque qu'il se répande dans son corps.
C'est ce que m'avaient dit les chirurgiens. Normalement, c'est pas possible parce que le gel, en fait, il se fige lorsque la prothèse rompt, en fait. Mais comment expliquer que je me retrouve avec du silicone sous le bras alors qu'il est censé rester sur la prothèse? C'est que c'est faux. On m'a menti. Bien sûr qu'on m'a menti. Donc moi, aujourd'hui, je suis quand même en colère. Personne ne peut nous dire ce que va devenir ce silicone. Je vivrai avec toute ma vie si je retire pas ces ganglions. Et encore, j'en ai sur mes ganglions, mais peut-être que j'en ai autre part que je ne le sais pas encore. Tous les jours, déjà, j'ai des douleurs à ce niveau-là. J'ai donc des nodules qui se sont formés parce que c'est une substance qui n'est pas naturelle et que j'ai dans mon corps. J'ai l'impression que vraiment d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de ma tête, que tant que j'aurai ce silicone à l'intérieur de moi, je retrouverai pas ma vie normale d'avant.
Ouais, c'est pour ça, parce qu'elle souffre de conséquences pour lesquelles elle n'avait pas été informée, que des femmes envisagent maintenant de porter plainte, Élodie, et certaines sont déjà passées à l'acte.
Oui, avec dans le viseur le fabricant Allergan, un géant de la chirurgie esthétique, dont on retrouve les prothèses texturées dans la plupart des cas de lymphome en France. Alors, les fabricants ont-ils une responsabilité? La justice doit enquêter, dit l'avocat pénaliste Emmanuel Molina. Il vient de déposer plainte pour tromperie aggravée et blessures involontaires.
Il y a une véritable nécessité que la justice pénale désormais se saisisse à bras-le-corps de cette situation. La véritable question, c'est celle de l'innocuité ou pas de ces prothèses mammaires texturées. Toute femme qui subit dans sa chair, pour des raisons qui lui appartiennent, une implantation de prothèses mammaires n'a pas à redouter que cette prothèse, à la défaveur d'un choc banal, mineur, ne se trouve à l'origine de ce développement malheureusement fulgurant de cette maladie.
Ouais, donc Allergan est dans le collimateur de ces plaignantes. Mais il n'y a pas que le fabricant qui est visé.
Non, l'Agence de sécurité du médicament, l'ANSM, est aussi accusée d'inertie par l'avocat marseillais Laurent Godon.
Je mets en cause l'ANSM parce que c'est son rôle de surveiller les technologies, le marché, et d'utiliser ce qu'on appelle la police sanitaire pour pouvoir empêcher que des drames arrivent. Or, l'ANSM, depuis 10 ans, est informée, surinformée, réinformée des problèmes posés par l'Allergan. Vous savez, quand il y a sur 10 ans, 10 morts sur un croisement, on met un feu. Lorsqu'on a 60 lymphomes, que ce lymphome est spécifique aux implants mammaires, que toutes les études concordent en ce sens, que même l'Institut du cancer, qui est quand même bien placé, décide de plus implanter, il faut prendre des décisions. Et surtout quand on sort du scandale Mediator, PIP, etc. Il va falloir que dans cette maison, les gens se réveillent un peu.
Ouais, très virulent cet avocat. Alors que répondent Allergan et la NSM, Élodie ?
Allergan ne réagit pas tant qu'il n'a pas vu le contenu des plaintes. La NSM, elle, n'a pas répondu à notre demande.
Bon, mais quand on entend tout ça, Élodie, on se demande quand même pourquoi on attend encore. Pourquoi on n'a pas déjà interdit ces prothèses texturées de la marque Allergan ?
Alors on va repréciser, Jacques, qu'il y a déjà une décision qui a été prise après les implant files, pas par les autorités sanitaires, mais par ce que l'on appelle un organisme notifié. Il n'a pas renouvelé le marquage CE des prothèses texturées Allergan depuis 2 mois, donc ces prothèses ne peuvent plus être vendues dans l'Union européenne.
Oui, mais vous le disiez, les autorités sanitaires françaises, elles n'ont toujours pas réagi.
Non, mais c'est justement le but des auditions qui viennent de se terminer. Après avoir entendu toutes les parties concernées, la NSM n'exclut pas de prendre une décision de police sanitaire dans les prochaines semaines, qui d'ailleurs pourrait ne pas concerner seulement les prothèses de la marque Allergan, mais toutes les prothèses mammaires texturées.
Mais pourquoi ne pas l'avoir fait avant ?
Eh bien parce que de nombreux chirurgiens, eux, défendent toujours ces implants mammaires texturés, expliquant que les prothèses à enveloppe lisse ne donnent pas d'aussi bons résultats sur le plan esthétique et surtout qu'il y a plus de complications et de risques de réopération.
Et ces chirurgiens, ils ont été entendus par l'Agence du médicament ?
Oui, et ils ont imploré les autorités sanitaires de ne pas interdire ces implants sous le coup de l'émotion et sous la pression médiatique. Les prothèses texturées ne doivent pas être toutes mises dans le même sac, assure le président de la Société française des chirurgiens esthétiques, Sébastien Garçon.
Il y a différents types de marques de voitures, il y a différentes voitures. Est-ce que vous allez interdire toutes les voitures ? Parce qu'il y en a une qui a un problème de frein et qui avait fait l'objet d'un rappel par son fabricant. Donc on vit une étape de régression. On est dans une société qui veut le meilleur, la meilleure technique, la meilleure technologie, le meilleur service rendu. Et demain, si effectivement on part sur une vision manichéenne avec une interdiction brutale, non ciblée des textures, ce sont les patientes qui vont en pâtir le premier.
Ouais, donc lui, il défend ses prothèses et cet avis, il est partagé ?
Eh oui, par beaucoup d'entre eux, Jacques. Je vais vous raconter une anecdote. La semaine dernière se tenait à Paris un congrès international de médecine esthétique. Il y avait un débat entre chirurgiens qui étaient ensuite invités à voter. À la question « Qu'allez-vous poser maintenant ? Des implants lisses ou détexturés ?» 63% des médecins présents dans la salle ont répondu « Des texturés ». Et parmi eux, il y avait Michael Atlan, le chef du service de chirurgie plastique et réparatrice à l'hôpital Tenon à Paris.
S'il y avait un taux de lymphome lié aux prothèses mammaires de 50% de risque sur les patientes porteuses de ce type d'implant, évidemment, la question ne se poserait pas. On n'est pas à ce taux-là. On est à 1 sur 3000 dans la pire hypothèse. Même s'il y a eu des victimes, 3 morts, 59 cas, ce sont des maladies qui sont globalement guérissables, beaucoup plus guérissables que le cancer du sein. Ces patientes-là, elles sont capables d'entendre, vous savez, il y a peut-être un sur-risque qui est de entre 1 sur 3000, 1 sur 7000, et les conséquences seraient ça.
Ouais, donc lui considère que statistiquement, le risque est faible. Bon, cela dit, il n'y a pas qu'en France qu'on a ce débat-là.
Non, il y a plus de 673 cas de lymphome à grandes cellules liés aux prothèses à travers le monde. La décision que pourrait prendre la NSM sera donc regardée de très près par les agences sanitaires étrangères. C'est pour cela d'ailleurs que Simona Peluso, de la télé publique italienne, a tenu à suivre les auditions publiques organisées en France.
Notre ministère n'a pas pris vraiment position sur ce thème et nous pensons que c'est très important que si en France on prenne une décision définitive sur les prothèses mammaires, sur tout ce qui concerne aussi la vigilance et les contrôles dans ces domaines, ça peut être très utile pour l'Italie aussi parce qu'on peut faire comme un effet domino, donc à prendre des mesures plus strictes.
Oui, prendre des mesures plus strictes. Sauf que rien ne dit que ce sera le cas, à ce stade. On n'en sait rien. pour l'instant, Élodie. On le saura quand d'ailleurs?
Eh bien, l'ANSM ou la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, dira dans les semaines qui viennent si la France interdit ou pas certains modèles de prothèses mammaires.
Bien, à suivre donc. Merci Élodie Guéguin. Je précise que votre enquête, on peut la réécouter, la lire ou la podcaster sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Vous pouvez aussi nous y laisser vos commentaires, tout comme d'ailleurs vous pouvez le faire sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France ou sur Twitter également, Investigation RF.
Secret d'info.
Alors, toute autre chose. Maintenant, nous accueillons, comme chaque mois, la médiatrice de Radio France, Emmanuelle Davier. Bonjour.
Bonjour, Jacques Monin.
Alors, dites-nous, sur quoi souhaitez-vous nous interpeller aujourd'hui?
Eh bien, le 12 janvier dernier, vous diffusiez une enquête sur la réforme des frais de mandat des parlementaires, en épinglant au passage une parlementaire qui doit rembourser aujourd'hui une partie de ses frais qu'elle avait indûment perçus. Trois jours plus tard, ici même, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, estimait que la cellule investigation de Radio France contribuait au dénigrement des parlementaires. Alors Jacques Monin, puisque le sujet a été posé, contribuez-vous au dénigrement des parlementaires?
Bon, d'abord, c'est difficile de répondre à cette question aujourd'hui, parce que évidemment, la première des choses qu'on a envie de faire, c'est de condamner ce qui s'est passé au domicile breton de Richard Ferrand, et puis d'affirmer haut et fort que cette condamnation ne souffre d'aucun bémol. Donc c'est plutôt un message de solidarité qu'on a envie de lui adresser en ce moment, et ça je tiens vraiment à l'affirmer de manière extrêmement claire. Et puis mon rôle n'est pas de polémiquer avec un homme politique, quel qu'il soit d'ailleurs. Maintenant j'entends, Emmanuel, votre question, et nous aussi on a des comptes à rendre, donc quel que soit le moment, je vais pas l'esquiver cette question. Alors pour faire simple, vous avez... d'un côté, une réforme des frais de mandat qui a été adoptée il y a un peu plus d'un an par les parlementaires. Et puis vous avez de l'autre un débat, le grand débat en ce moment, qui porte notamment sur justement le bon usage de l'argent public. Alors il nous a semblé qu'il était légitime que nous soumettions cette réforme à un examen critique, à ce qu'on pourrait appeler tout simplement une évaluation. Et en investiguant, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien que, un, il y avait des abus clairs avant 2017, pour preuve, il y a cette enquête qui a été ouverte et qui cible 15 parlementaires, et vous le releviez, on en a identifié effectivement un 16e. Et puis deux, on se rend compte qu'après la réforme, ben, ces abus sont encore possibles, ne serait-ce que parce que la réforme prévoit que 600 euros par mois pour les députés ou 900 euros par mois pour les sénateurs peuvent toujours être utilisé en frais sans aucune justification. Alors, pour répondre à votre question, bah, qu'est-ce qui participe le plus au dénigrement des parlementaires? Est-ce que c'est le fait d'exposer une situation ou est-ce que c'est la situation elle-même qui peut alimenter le sentiment qu'il y aurait des citoyens de différentes catégories, d'un côté des personnes comme vous peut-être, ceux qui nous écoutent, qui dans le cadre de leur travail, lorsqu'ils ont des frais, doivent justifier du moindre centime, et puis d'autres qui, eux, n'ont pas besoin de le faire. Des personnes qui, lorsqu'elles sont prises en faute dans l'utilisation de ces frais, sont sanctionnées. Et puis d'autres à qui on ne demanderait que de rembourser. Ben, voilà les questions que notre enquête pose, ni plus ni moins. Hein. Alors, on peut ne pas vouloir le voir, au motif que ce constat peut alimenter l'anti-parlementarisme et que ce n'est peut-être pas le moment de le faire. Maintenant, on peut se dire aussi, à contrario, qu'il peut y avoir, au contraire, donc la matière à réfléchir, justement, pour restaurer de cette confiance qui visiblement s'émousse, mais là, ça n'est plus évidemment de mon ressort.
Donc on l'aura bien compris, Jacques Monin, il n'y a pas là dans votre travail d'investigation de volonté de dénigrement à l'égard des parlementaires.
Il n'y a pas de volonté de dénigrement. Non, non seulement il n'y en a aucune, mais je rappelle quand même qu'au préalable, en préambule de cette enquête, nous avions clairement dit qu'il était hors de question pour nous d'affirmer que tous les parlementaires abusaient de leurs frais de mandat. Et je le répète clairement ici. En revanche, ce que nous pointions, encore une fois, c'est un système dont on peut se demander s'il est satisfaisant. Mais ça, ce sera à chacun d'en juger.
J'ajoute cette information dont il a été question cette semaine. Mediapart a fait l'objet d'une tentative de perquisition dans ses locaux. Alors Mediapart s'y est opposé au nom de la protection de ses sources. Tout comme Mediapart, vous abordez au cours de vos enquêtes des sujets sensibles. Est-ce que vous pourriez également faire l'objet de perquisitions?
Absolument. Tout média peut faire l'objet de perquisitions. La presse n'est pas au-dessus des lois. Donc la police, les juges peuvent venir perquisitionner à l'intérieur d'un média. Ça s'est déjà passé, c'est extrêmement rare. Et si Mediapart a pu y échapper, entre guillemets, c'est parce que dans ce cas-là, c'était sous une enquête préliminaire. Or, sous enquête préliminaire, on a besoin de l'accord de la personne qui doit être perquisitionnée pour perquisitionner. Donc Mediapart a pu refuser cette perquisition. Si demain, dans le cadre cette fois-ci d'une information judiciaire, un juge débarquait à Radio France avec des policiers pour perquisitionner dans les locaux de la direction de l'investigation, il pourrait tout à fait, et personne ne pourrait s'y opposer. Maintenant, le problème de ce type de perquisition, c'est que si vous débarquez dans une rédaction, vous avez une cible, mais vous avez des filets dérivants, c'est-à-dire que vous allez emporter tout ce qu'il y a dans les locaux. Et dans tout ce qu'il y a dans les locaux, il y a tous les sujets sur lesquels on travaille. Pour vous donner un exemple tout bête, on a récemment fait des enquêtes sur l'éventuel financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy. On a fait des enquêtes sur, là encore très récemment, les armes françaises vendues à l'Arabie Saoudite qui pourraient se retrouver impliquées dans la guerre au Yémen. On a fait une enquête sur les ciments Lafarge en Libye. Donc évidemment qu'on a des éléments sur ces dossiers-là. Si demain un juge vient pour essayer d'identifier qui, possiblement, a écouté une personne dans un endroit où elle n'aurait pas dû le faire, eh bien, elle va récupérer tous ces dossiers. Et donc, la protection de nos sources tombe. Or, sans protection de ces sources-là, il n'y a pas d'information. Et c'est là qu'il y a un souci. C'est qu'il y a une opposition entre, finalement, le droit, effectivement, à la justice de perquisitionner et les dégâts collatéraux que ça peut entraîner dans un cadre d'exercice d'une presse libre. Voilà, c'est ça la difficulté.
Alors, très concrètement, comment vous protégez vos sources ?
On en a parlé déjà plusieurs fois ici. Par exemple, en les anonymisant, c'est-à-dire on leur garantit une protection. Quand on a validé leur légitimité, on les anonymise dans nos enquêtes. Si je vous disais vraiment comment on protège nos sources, je vous dévoilerais des choses qui peuvent les mettre en danger. Donc ça, je ne peux pas le faire. En revanche, je peux vous dire, dans le cadre, on le sait, de projets collaboratifs internationaux, par exemple, on travaille beaucoup avec, effectivement, des outils qui sont des outils cryptés. Donc même en perquisitionnant chez nous, ce sont des outils qu'on ne pourrait pas décrypter, donc qu'on ne pourrait pas exploiter. Mais c'est compliqué parce que on est aujourd'hui, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, quand même dans une situation où les sources sont de plus en plus mises en difficulté. On a adopté récemment une loi sur le secret des affaires. On voit très bien les dégâts que ça commence à engendrer, puisque maintenant, toute personne qui est à l'intérieur d'une entreprise, si elle dévoile quoi que ce soit, elle est quasiment sûre d'être attaquée devant un tribunal dans le cadre, justement, de la violation de ce secret des affaires. Donc, on fragilise déjà toute une partie de nos sources. Si, en plus, demain, on devait légitimer l'usage, alors, un usage proportionné, pourquoi pas, mais un usage abusif des perquisitions dans les médias, ça poserait quand même de sérieux problèmes.
Pourquoi des sources vous parlent ?
Alors ça, c'est pour plusieurs raisons. Il y a deux types de sources. Vous avez des sources qui vous parlent parce qu'elles ont une conscience. Voilà. Et elles voient des choses qui heurtent leur conscience. Donc elles ont envie que les choses avancent, elles ont envie que ça sache, elles ont envie, comme on dit vulgairement, que ça sorte. Voilà. Vous avez d'autres sources qui ont moins de conscience et qui ont des comptes à régler. Il faut dire les choses. Et qui transmettent un certain nombre d'informations pour nuire à d'autres gens. C'est une réalité. Après, la question du journaliste, c'est pas de se poser la question de ce qu'il y a dans le cerveau de celui qui lui donne une information. C'est de se dire, est-ce que cette information d'abord est vraie ? Ensuite, est-ce qu'elle est d'intérêt public ? Et quelle que soit la motivation de la source, si ces deux conditions sont remplies, il travaille avec.
Merci Jacques Monin.
Je vous en prie Emmanuel. Donc on vous retrouve le mois prochain, hein, comme d'habitude. Mais restez avec nous, en tout cas si vous voulez, Emmanuel, restez également. Dans quelques instants, nous allons parler de toute autre chose. Nous allons voir ce qu'il y a dans la tête des apprentis djihadistes français.
Dancing in my underpants, I'm gonna run for government, I'm gonna form a covers band and all. Back there by the baby grand, did Mr. Winter Wonderland say, come here kid, we really need to talk. Bear with me man, I lost my train of thought. I call it quits. I swim with the economists.
and I get to the bottom of it for good. By the time reality hits, the chimes of freedom fell to bits, the shining city on the fritz. They come out of the cracks, thirsty for blood. Documentary that no one else unfortunately saw. Such beautiful photography, it's worth it for the opening scene. I've been driving round listening to the score, or maybe I just imagined it all.
Une voix qui rappelle un peu celle de David Bowie, c'était les Arctic Monkeys, One Point Perspective, extrait de leur dernier album, Tranquility Base Hotel and Casino.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Alors nous recevons maintenant Mathieu Delahousse, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez La Chambre des Coupables, c'est un récit d'audience de jeunes qui ont tenté de partir en Syrie ou qui en sont revenus et qui se sont retrouvés devant la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Alors c'est un recueil de tranches de vie, mais c'est aussi en soi une formidable enquête sur cette jeunesse djihadiste qui navigue en fait entre l'horreur la plus extrême et aussi une forme de naïveté. Et c'est peut-être ça qui frappe d'abord dans votre récit, c'est le décalage qu'il y a souvent entre des projets épouvantable. Et puis les propos parfois badins, même puérils de ces prévenus.
Ce qui est très troublant, c'est le décalage entre le papier et ces personnages de chair et d'eau qu'on voit devant nous dans les box. Sur le papier, il y a des écoutes téléphoniques avec une jeune fille qui raconte, par exemple, à l'issue de plusieurs semaines de dialogue avec l'une de ses amies qui a 16 ans. Elle lui dit « Qu'est-ce que tu veux faire au casino de Paris quand on va se retrouver vendredi prochain ? Est-ce que tu veux être kamikaze, te faire sauter avec le gilet, ou tu préfères te faire sauter par le RAID ou le GGN qui va intervenir ?» Et l'autre répond comme si c'était une sortie de lycée. C'est un attentat qui a été déjoué au casino de Paris avec plusieurs milliers de personnes. Les jeunes, sur cette histoire-là, échangeaient en disant qu'ils voulaient faire mieux que le Bataclan. C'était quelques semaines après.
Et effectivement, oui, c'est terrible parce que c'est le concert de Tony Carrera. Absolument. Alors, c'est grâce à votre livre que je l'ai découvert, hein, je le confesse. Mais ce qui est terrible, c'est qu'elle explique « J'ai vu qu'il y avait 2000 places, que c'était à guichet fermé, donc j'ai pensé qu'il y aurait plus de monde à tuer ».
C'est une stratégie militaire, quand on regarde les papiers. C'est une stratégie de destruction massive. Et c'est ça, le terrorisme. Ces jeunes femmes qui sont connectées, mais comme n'importe quel adolescent, elles vont trouver les plans du casino de Paris sur Google. Elles vont trouver les dates du concert sur Internet. Elles vont trouver les plans de la ville également de la même façon. Et elles font une stratégie militaire qui ira pas jusqu'au bout, qui est télécommandée tout de même par un homme qui s'appelle Rachid Kassim, qui est en Syrie et qui est l'un des plus grands djihadistes. Et effectivement, sur le papier, toutes ces histoires-là sont terrifiantes, sont des plans militaires, sont des plans d'attentats qui auraient pu se dérouler. Mais quand on arrive dans le box, on tombe sur une jeune fille qui effectivement est à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, qui est amaigrie, qui ne sait même plus ce qu'elle dit, qui ne comprend pas. Et on comprend très vite, nous, en observateur, qu'elle est totalement influençable, qu'elle a été influencée par ces jeunes mineurs de 16 ans pour partir au combat, et que là, elle est en train de se faire influencer de la même façon, avec la même candeur, le même engagement et la même naïveté, vers une déradicalisation caricaturale qu'on a envie de croire, mais sur laquelle on est obligé de douter.
Et dans cette affaire-là, elle attendait aussi des armes qui devaient venir de Belgique, de Molenbeek. Et ce que vous pointez du doigt aussi, c'est que tous ces gens qui défilent comme ça pendant des semaines, ils sont tous plus ou moins interconnectés.
Ils sont interconnectés par des outils dont on parle à chaque fois dans tous les dossiers terroristes, qui sont Facebook, qui sont les réseaux sociaux, et qui sont cette connexion totalement virtuel au départ pour des faits réels ensuite. Il y a eu des attentats qui ont été jugés, je pense notamment à l'attentat qui devait viser dans les Pyrénées-Orientales le sémaphore de Cap-Béart. Celui-ci a été jugé aux assises avec un ancien militaire qui avait quitté l'armée, il avait été réformé de la marine nationale pour des raisons de comportement et qui finalement s'est connecté par les réseaux sociaux avec un garçon qui était à Lille, un autre qui était à un autre endroit et finalement tous se sont retrouvés. Et finalement, moi, avec les jeunes gens, il y a ce sentiment terrifiant parce qu'on a l'impression quand même que c'est des crimes contre l'humanité qu'on est en train de juger. On a l'impression que ce sont des crimes pour l'histoire qu'on est en train de juger. Et finalement, il y a une forme effectivement de légèreté totale. Et c'est le mythique du terrorisme. C'est le site de rencontre du terrorisme.
D'inconscience, quelque part.
D'inconscience, avec des petits messages qu'on s'échange en mettant en avant le fait que... Ben, quand tu monteras de Bron à côté de Lyon, ce qui est le cas de la jeune femme, quand tu partiras de Toulouse, ce qui est le cas d'un autre, eh ben on se retrouvera effectivement avec les filles de Molenbeek. Ce qui choque beaucoup quand on les voit, c'est qu'ils ont tous le profil soit de petites mains inutiles, soit le profil des grands terroristes qu'on a vu passer à l'action et qui se sont tués soit par les kamikazes, soit par les forces de l'ordre, que ce soit au Bataclan, à Saint-Étienne du Rouvray, à Trèbes, etc. Toute cette liste qu'on connaît.
Et vous dites qu'ils ont aussi un autre point commun, c'est qu'ils détestent, et je vous cite, la France à un point inimaginable.
Dans toutes ces structures. Et souvent, cette détestation de la France, chez les jeunes djihadistes, elle s'exprime sur tous les étages. C'est-à-dire qu'elle s'exprime évidemment sur les militaires. Il y a une jeune fille qui est dans le box un jour et qui se tourne vers le gendarme qui garde le box. Et elle dit, voyez, je suis déradicalisée, mais il y a 2 mois, l'homme qui est à côté de moi, j'aurais voulu l'étrangler. Pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il représente, pour l'uniforme qu'il a. Mais il déteste de la même façon l'école. Il rejette évidemment la presse, mais c'est pas les seuls. Et il rejette le système social avec un cynisme absolu qui fait qu'on garde les allocations pour partir au djihad, mais qu'on prend quand même ces allocations. Et évidemment, il déteste la justice, puisque certains, c'est pas le cas forcément des petits poissons, mais des plus radicalisés, finissent par le dire les yeux dans les yeux à une assesseuse, et c'est une scène, moi, qui m'a vraiment glacé, de dire, vous savez, votre justice... Faites ce que vous voulez, hein. Mais la charia, c'est mieux.
C'est pas la justice
la
de Dieu.
La loi islamique, c'est mieux.
On se fiche de la justice des hommes.
Et quand la justice veut réconcilier, c'est un fossé qui se crée.
Oui, alors vous évoquiez la déradicalisation de la jeune femme dont vous parliez il y a un instant. Mais la question centrale, c'est ça, c'est quelle sincérité on peut accorder à cette déradicalisation à travers les affaires que vous citez. Il y a des cas, notamment cet ancien cuisinier qui est une espèce de détenu modèle et puis dont on se rend compte que 6 mois plus tard, il va tenter de tuer son surveillant en prison.
On voulait lui faire confiance dans son premier procès. Il a essayé de partir en Syrie, il a eu un accident de voiture, il est revenu, il est parti avec sa femme et son très jeune enfant. Et effectivement, les magistrats qui l'ont vu se sont dit qu'il était peut-être dans ce qu'on appelle le bas du spectre. Et cet homme, ensuite, a été incarcéré et il a eu une radicalisation encore plus forte qui fait qu'il a commis le premier attentat en prison, qu'il est aujourd'hui renvoyé aux assises pour tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique et qu'effectivement, il tient un discours, celui-là, de djihad politique. C'est-à-dire que...
Complètement à l'opposé de celui qui tenait il y a quelques mois.
Complètement à l'opposé en disant, finalement... C'est un jeune homme qui travaillait chez Tout Mieux, qui avait travaillé également chez Maxim's, rue Royale à Paris, et qui a décidé de quitter son emploi parce qu'il ne voulait plus servir d'alcool aux mécréants. Signe de radicalisation, évident.
Et manipuler de porc non plus.
Et absolument. Plus toucher cette viande-là. Et ensuite, quand il passe devant la justice, il pleure, il parle de ses frères qui sont morts en Syrie. Il y a une indulgence naturelle qui se crée. Et en revanche, effectivement, celui-là, aujourd'hui, souligne que le djihadisme, ce n'est pas que les attentats. Il dit qu'il y aura d'autres frères qui passeront à l'action, et lui, il veut la guerre totale. Et effectivement, son discours, il vient briser de façon terrifiante, toutes les tentatives qu'on peut avoir de déradicalisation.
Vous écrivez « Le terrorisme est une matière qui rend fou ». Vous êtes devenu fou ?
Je pense que c'est une matière qui rend fou beaucoup de monde. Marc Trévidic parlait du virus du terrorisme. Les juges que j'ai rencontrés dans ce livre, certains quittent leur poste actuellement pour en faire d'autres et avouent leur soulagement. Et moi, j'ai eu une forme de trouble parce que j'ai des idéaux de justice assez chevillés au corps. Et effectivement, le fait de se retrouver dans cette chambre tout est bousculé. Et parfois, j'ai fait l'évolution du livre sur cette façon-là, c'est-à-dire que j'ai commencé par les flots de haine qui m'ont envahi, notamment quand je voyais des jeunes gens arriver qui ressemblaient trait pour trait à aux kamikazes du Bataclan. Et c'est très troublant d'avoir cette correspondance
de plus savoir émotive. Qui on est. Et d'avoir des sentiments qui correspondent pas à ceux qu'on voudrait avoir.
Voilà, et d'avoir des flots de haine. Et par ailleurs, quand on a comme modèle Joseph Kessel, par exemple, qui pour le procès de Nuremberg avait écrit les jugements derniers, c'est une place dans l'histoire que nous, journalistes, on n'arrive pas à avoir, parce qu'on n'est pas dans des jugements derniers. L'histoire du terrorisme, elle est en cours, on est face à cette machine à laver, en quelque sorte, qui nous broie, qui nous trouble. Et c'est vrai que la tentation, à un moment, c'est de se dire que ce sont des gens sans intérêt, que ce sont des coupables forcément coupables, et de ne pas faire œuvre de justice et de ne pas raconter la justice. La folie, en tout cas, était de se rendre compte que ce que j'écrivais il y a 10 ans ou ce que je racontais il y a 10 ans sur le terrorisme était évidemment démenti par un certain nombre de faits, et c'est assez douloureux pour un journaliste.
Merci Mathieu Delahousse. Merci. Je précise que votre livre, donc La Chambre des Coupables, est édité chez Fayard. C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer, réalisée par Christophe Imbert, avec une programmation musicale signée Jean-Baptiste Audibert et à la technique Théo Gomard et Pierre-Yves de Rolin. Dans quelques instants, Denis Chessou, dans C'est au-deux mon amour, il va vous emmener à Puy-Saint-André dans les Hautes-Alpes. Excellent week-end à tous et à samedi prochain.